Terrorist networks, terrorist states, terrorist networks, terrorist states.
Et non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique numéro 101 ou la 21e de cette saison 8.
Pascal Rullier dans le micro, Gilles Gouget pour vous servir. On est ensemble pour à peu près une heure au cours de laquelle nous parcourrons une fort volumineuse revue de presse de l'april.
Et oui, Divergence numérique, c'est votre émission sur le libre, les logiciels libres, sur le 93.9 de Divergence FM qu'on peut écouter, mais oui, dans les montagnes Cévenoles. J'en ai fait l'expérience aujourd'hui même. Et puis, on peut aussi nous écouter sur le net, notamment en Belgique, sur divergence-fm.org. Petit coucou à Robert F., un habitué du chat.
Et puis après cette revue de presse de l'april que nous n'avons pas eu le temps d'habiller, si ce n'est avec son désormais célèbre générique, mais les petites virgules, je n'ai pas eu le temps de les faire car nous sommes en pleine paperasserie à Divergence, comme beaucoup de radios associatives en France en ce moment. Donc une revue de presse qu'il aurait fallu vraiment habiller puisqu'elle est super longue, et ils vous le diront en tout début, il y a des semaines où il ne se passe pas grand chose et il y en a d'autres où il s'en passe trop. Il faudrait lisser tout ça, mais la vie n'est pas un phénomène lisse et sans aspérité, alors on se fera une raison. Et puis ensuite, on parlera Linux embarqué avec Thomas Petazzoni qui était à Montpellier. Il est venu en fin de matinée pour enregistrer cette interview puisqu'il était cet après-midi à Latte, Pascal.
Oui, plus exactement, sur donc un séminaire sur le Linux embarqué. Il vous dira tout ça. Ensuite, nous recevrons Pascal Arnoux de Montpellibre pour nous parler de l'install party qui va se dérouler le samedi 19 mars à la médiathèque de Lunel.
Et puis de la musique, évidemment, avant de terminer par le classique agenda du libre. De la musique, Pascal, que tu as sélectionné aujourd'hui.
Tout à fait, le Lac des Singes, oui, c'est bien ça, Lac des Singes, donc c'est un Lyonnais français. On découvrira quelques morceaux.
Mais avant tout, et pour bien démarrer, quelques nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Donc avec des vrais pingouins sur la banquise, revue de presse de l'april de la semaine 10 par nos habitués Emmanuel Charpentier et Luc Fievier de l'april, april.org.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 10 de l'année 2011. Salut Manu.
Salut Luc, comment tu vas?
Bah, je vais moyen parce que je trouve que cette semaine, il y a trop de sujets. Et voilà, je trouve qu'il pourrait faire un petit peu attention. La semaine dernière, il n'y avait pas grand-chose. Et cette semaine, il y en a trop. Alors il pourrait faire un effort et penser à nous un petit peu. Parce que après, je vois pas comment on va casser tout ça dans un quart d'heure, ça me paraît impossible.
Ouais, non mais t'abuses, attends, on va parler d'Europe, d'Android, de Cantona, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Philo, brevet, interopérabilité et constipation.
Ah non, conspiration, t'es vraiment fatigué. Bon, allez, reprends-toi Luc, c'est quoi le premier article?
Alors c'est un article du Mag IT, Linux sur le desktop des administrations européennes avance, un article de Cyril Chausson. Donc c'est un article qui fait écho à ce qu'on a dit les dernières semaines avec les mauvaises nouvelles de différentes administrations qui se débarrassaient de leurs projets libres, notamment la ville de Munich, c'est passé en Suisse également, la ville de Bristol, Marseille dont on a beaucoup parlé, et également le ministère des Affaires étrangères allemand qui avait fait, tous ces gens-là avaient fait marche arrière, enfin toutes ces organisations avaient fait marche arrière. Donc l'article réchauffe un petit peu le cœur parce qu'il cite quand même des tas de coins où au contraire ça va dans l'autre sens, où on peut voir qu'il n'y a pas de tendance au recul. Il cite notamment la Slovénie qui a planifié d'avoir 80% des postes sous Linux en 2015. Voilà, et en Grande-Bretagne également, il y a plein de projets qui vont dans ce sens-là. Donc il y a des reculs, mais il y a également des avancées, donc ça c'est très bon signe.
Oui, dans les reculs, et ça faisait mal au cœur, c'était le RGI, l'interopérabilité, c'était le référentiel général d'interopérabilité, et l'April s'était ému du fait que le truc était un peu tombé à l'eau, les termes utilisés étaient foireux, et ça fait un peu mal au cœur.
Voilà, on en avait parlé aussi, hein, ça avait été un peu vidé de son contenu en changeant quelques termes, et là, il y a eu une chose importante, il y a une direction qui s'est montée, il y a eu des transferts de compétences d'une direction à l'autre, et en fait, la partie interopérabilité a disparu dans la nouvelle direction, donc elle s'est perdue en chemin.
La pauvre, hein, franchement, c'est vraiment trop triste, on croirait le chaperon rouge. Il s'est fait agresser par les gros méchants loups du logiciel propriétaire et des lobbies, hein. Il n'y a pas 36 solutions.
Ah, dans les déménagements, on perd toujours quelque chose.
Et donc dans la suite de tout ça, il y avait quand même un rapport intéressant qui a fuité. Mais là, ça fait plaisir, un rapport néerlandais qui explique qu'on pourrait gagner 4 milliards d'euros par an aux Pays-Bas si jamais l'administration, les institutions passaient au logiciel libre. Bon, le rapport a été un petit peu glissé de côté par les institutionnels qui disent que non, il n'a pas été fait très bien, il n'a pas bien suivi les bonnes normes pour faire des rapports comme ça. Je ne suis pas étonné du tout qu'il ait fuité, parce qu'en fait, il allait être enterré sinon. Et là, 4 milliards d'euros par an dans un pays qui est finalement pas si gros que ça, j'aimerais bien qu'on essaye d'appliquer la même règle à la France et dans des pays équivalents pour voir un peu ce qu'on pourrait sortir comme argent.
Voilà, donc c'était un article de Numérama. Hein. 4 milliards d'euros pourraient être économisés grâce au logiciel libre, selon un rapport donc par Julien L. Le titre dit l'essentiel. Alors, toutes les semaines, on parle téléphonie et ce genre de choses. C'est extrêmement dynamique. Android est en train de tout péter, etc. Et donc là, c'est petite mise à jour de la semaine sur le sujet.
Oui, article e-génération, les apps iOS et Android et le non-respect des licences open source de Anthony Nelson. Eh bien, c'est pas cool, mais il semblerait qu'il y a beaucoup d'applications libres qui sont déployées sur les téléphones portables. Et malheureusement, et donc y compris Android, notre chouchou puisque c'est du logiciel libre, eh bien malheureusement, il y a beaucoup de ces logiciels qui ne respectent pas les licences, qui ne distribuent pas le code source, qui ne mettent pas même le fait que c'est sous une licence open source.
Voilà, c'est le pire. Les cas les pires sont des logiciels qui sont propriétaires et qui intègrent des logiciels libres et qui, en gros, font complètement abstraction de ça. Alors, l'article dit que c'est, a priori, plus par une question de méconnaissance du sujet. Quand on a une boîte, il faut aller vite. On doit faire rentrer de l'argent, on n'a pas le temps de se pencher sur la question. Alors, ils disent qu'il y a quand même à peu près 10% des logiciels qui contiennent du logiciel libre, mais que, voilà, c'est pas très clean au niveau de leur utilisation.
Oui, hein, il parle, au final, ça correspond à 52 applications sur des milliers et des milliers. C'est peut-être pas si énorme que ça, mais il faudrait au moins aller les prévenir.
Alors là, c'était une étude faite par une boîte qui s'appelle OpenLogic et qui avait pris 635 applications parmi les plus populaires sur Android et qui en a trouvé en gros à peu près 10% qui contenaient du libre.
Alors pour continuer sur le même sujet, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis qui parlent du fait qu'Android est passé devant et c'est les leaders en termes de part de marché, ils sont passés devant BlackBerry et donc il y a des articles du Mag IT, de Génération Nouvelle Technologie, de ZN, de Des Groupes News qui tout simplement mettent en avant le fait qu'Android détrône BlackBerry, Android est célébré des deux côtés de l'Atlantique, Android et iOS c'est les OS mobiles préférés des développeurs open source. Mais avec Android qui est devant, et en tout cas on espère bien. Donc des bonnes choses, ça, c'est pas mal du tout.
Ben on verra comment ça va évoluer dans le temps. Les derniers articles intéressants, on en a parlé aussi, développé.com, Windows Phone 7, mise à jour du Marketplace. Donc un article de la rédaction. Donc on en avait parlé il y a quelques semaines, ou il n'y a pas si longtemps que ça, le store, le Marketplace, comme ça que Microsoft appelle son store en ligne, refuser les logiciels qui étaient sous licence libre. Et en fait, c'est pas exactement ça. Là, il y a des précisions. Et donc, ils sont ouverts aux licences libres.
Oui, ils adorent les licences libres. Ils en utilisent déjà dans Windows. C'est simplement les licences libres avec la clause copyleft. Le fait qu'on doive fournir le code source et si on utilise du logiciel libre nous-mêmes, eh bien, on doit redistribuer ce logiciel libre. C'est ça qui se déteste. Et c'est ça qui est interdit sur le Market Store. Donc là, effectivement, ils vont un petit peu détailler. Ils autorisent les licences alors MIT, Apache, des choses BSD, voilà, des choses qu'on considère un peu libérales dans le sens où on peut en faire ce qu'on veut, y compris le remettre dans des logiciels propriétaires. Par contre, les licences qui, elles, requièrent d'être remises dans des logiciels qui sont libres, donc copyleft, ça, ils n'aiment pas trop, même s'ils laissent un petit peu la porte ouverte pour le futur, mais bon, il ne faut pas trop en attendre, j'ai pas trop confiance.
Oui, alors effectivement, ils disent qu'ils étudient la possibilité, enfin en tout cas qu'ils veulent mettre à jour ça et autoriser la Mozilla Public License et Eclipse Public License qui sont beaucoup plus proches des licences Copyleft. Mais en tout cas, c'est pour l'instant qu'une annonce, donc on attend de voir. Donc du côté des cantonales, Numérama, cantonal, les candidats de gauche plus favorables au pacte du logiciel libre, point d'interrogation, par Julien L. Donc ça revient sur l'initiative de l'April, candidat.fr, qui consiste à aller faire signer le pacte du logiciel libre aux candidats des élections. Et donc, constatation de Numérama, il y a beaucoup, beaucoup d'élus de gauche et beaucoup moins d'élus de droite.
Et oui, hein, il semblerait que finalement, le logiciel libre est peut-être un peu politisé. En tout cas, c'est ce qui apparaît quand on regarde le panel politique. Et d'autant plus, là c'est un autre article de Midi Libre, les candidats du Front de Gauche pour les logiciels libres. Et oui, tout le Front de Gauche, en tout cas les candidats qui sont répertoriés comme tels, eh bien ils ont déclaré en masse, oui, on va signer le pacte du logiciel libre, on l'inclut dans notre campagne, ça fait partie de leurs idées.
Alors, bon, politisé, non. Alors, il y a forcément des gens de gauche, mais il y a aussi des gens de droite. Il y a dans le logiciel libre des gens d'horizons très divers et qui se retrouvent là-dedans. C'est vrai que les seuls qu'on ne va pas vraiment revoir et se sentir concernés par le logiciel libre, ça va être les conservateurs. Mais on a de l'extrême droite aussi, hein, qui est plutôt favorable au logiciel libre. Ce que Numérama, l'article de Numérama, ce qui précise, c'est qu'avec les lois Hadopi, Lopsi, etc., l'UMP, les gens de l'UMP et le monde d'Internet se sont pas mal frottés, il y a eu de la friction, ça s'est pas mal frité, et que du coup tout ce qui est en relation avec ça, ça marche pas des masses, et que du coup il y a beaucoup de réticence de leur côté. Donc il y a a priori pas de raison que ça change pas un jour, et c'est juste une invitation aux élus de différents bords de se prononcer, et après ça libre à eux de prendre leur position.
Oui, moi je suis certain que le logiciel libre n'est pas politisé à la base, mais qu'effectivement, bien ça c'est la vie de tous les jours, il y a des gens qui prennent plus ou moins les idées en cours de route, et comme tu dis, les conservateurs, eh bien c'est peut-être pas dans l'esprit de la chose de se mettre aux nouvelles idées. Et le logiciel libre, même si ça existe depuis les années 80, finalement c'est une nouvelle idée dans le domaine politique.
Donc on parle de nous dans itairmanager.com, la Cour de justice européenne enterre la juridiction unifiée relative aux brevets avec le logo de l'April.
Par la rédaction. Donc effectivement, ils reprennent beaucoup de propos de l'April. Là, ce qui se passe, c'est qu'un nouveau combat, les brevets logiciels, ils essayaient d'unifier le concept au niveau européen. Donc l'Office européen des brevets essayait de se retransformer, reprendre le contrôle de tous les offices de chaque pays, et reconstituer une structure au-dessus de ça. Mais non, la Cour de justice européenne a dit « Niet, ça passera pas, parce que là, vous sortez du domaine qui vous autorise, vous passez au-dessus des États, il n'y a plus personne pour vous contrôler, quelque part, c'est un peu de ça dont il s'agit. Vous ne pourrez pas le faire sous cette forme-là. » Donc, à mon avis, retour à la case départ, ils vont vouloir refaire un brevet unifié, il n'y a pas de doute, parce que c'est le bordel, mais ils vont passer probablement par une juridiction européenne, une administration comme une autre, il n'y a pas de raison de faire quelque chose de spécial. Par contre, et là, je prie pour ça, c'est qu'ils arrêtent de remettre le brevet logiciel là-dedans. À chaque fois, ils essayent de le faire rentrer par la petite porte, et là, non, il faut arrêter.
Donc, un blog du monde.fr à qui profite le piratage de Bercy par Jean-Marc Manac.
Et oui, là, c'était les grandes nouvelles de la semaine. Bercy et l'État français a été attaqué et Bercy a été percé. Donc, il y a des petits hackers qui sont installés en passant par un PDF, un Troyen dans un PDF. Quelqu'un à Bercy a cliqué dessus et les hackers sont rentrés et ont récupéré plein d'infos sur le G20, il semblerait. Donc là, c'est la honte pour la direction du service informatique. C'est remonté à Sarkozy qui n'a pas du tout apprécié, donc on va voir si ça redescend derrière. L'attaque a été analysée derrière ça par, on le voit dans un autre article, Science et Avenir, par Stéphane Botzmeyer, qui était interviewé par Cécile Dumas. Donc un article, la sécurité informatique va à l'encontre de la productivité, et ça me fait mal au cœur parce que je suis informaticien et quand je vois ça, j'ai mal. Oui, on peut être sécurisé et productif, eh bien il semblerait que ce n'est pas le cas à Bercy. Surtout, c'est qu'ils n'utilisent pas du tout de logiciels libres, et mine de rien, moi je connais l'architecture de ces logiciels-là, je sais que par essence, ils seraient beaucoup plus sécurisés, beaucoup plus fiables, pas besoin d'antivirus, ou en tout cas pas dans la même mesure, et moins de risque de se faire verrouiller par un PDF à deux balles. Bon.
Alors, l'article de Science et Avenir a quand même le mérite de pointer le fait qu'aujourd'hui, dans les failles, il y a la technique, mais il y a aussi les usages, Et quand on voit des mots de passe hyper compliqués, avec des majuscules, des caractères spéciaux, et qui doivent être toujours différents, etc., il y a quand même des limites humaines. Et on a vu plein d'affaires ces derniers mois de gens célèbres qui se sont fait piquer leur mot de passe Twitter ou autre, toutes ces méthodes de manipulation, de recherche d'informations. La sécurité informatique est un mythe.
Oui, le problème, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, l'interface chaise-clavier, c'est là qu'est le bug. Donc pour finir, on va parler grosses boîtes. De temps en temps, ça nous arrive. Donc article 01 Net Pro, Red Hat avoue avoir conspiré contre Oracle, non pas constipé. Donc article de Yann Serra qui parle d'une pratique qui se fait couramment. On distribue du code source, c'est le principe du logiciel libre, et on distribue des correctifs, des patchs qu'on applique sur le logiciel de base. Eh bien, Red Hat fournit les patchs depuis longtemps et il les fournit dans l'ordre, de manière propre, bien rangée. Et ce qui se passe, c'est que Oracle en profitait pour appliquer tous ces patchs plus vite que Red Hat dans beaucoup de cas, parce qu'ils choisissaient ceux qui les intéressaient, et donc ils s'en vantaient, et ça leur permettait commercialement d'être très réactifs et d'être très agressifs. D'ailleurs, ils appelaient leur version de Red Hat, qui était une version de Red Hat, Unbreakable Linux, le Linux qu'on ne casse pas. Donc voilà, ils avaient une super baraque, sauf que là, eh bien, Red Hat leur a cassé la baraque. Je sais que ça t'amuse, Luc, vas-y.
Moi, je trouve ça intéressant. Au-delà de l'anecdote, ce qui est rigolo, c'est de voir que face à la stratégie de parasite d'Oracle, Red Hat a pris des mesures pour complexifier et leur rendre la tâche moins facile. Donc, on voit que donner le code source et jouer le jeu du libre, au premier abord, on se dit qu'on va se faire tondre et se faire piquer, etc. Et cet exemple aurait plutôt tendance à dire que oui, c'est effectivement le cas. Mais là, on voit qu'en faisant quelques ajustements, on peut forcer les autres à acquérir des compétences et être à niveau.
Et oui, là, en l'occurrence, ils ont rassemblé les correctifs plutôt que de les distribuer indépendamment les uns des autres. Ils les ont mis tous ensemble, ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué pour Oracle de les réappliquer dans l'ordre ou dans le désordre et de les choisir au cas par cas. Ça leur a cassé la baraque. Hein.
Voilà, donc, bon, c'est amusant, mais en même temps, je trouve ça quand même assez signifiant comme exemple. Bon, ben Manu, merci. On se retrouve la semaine prochaine.
Eh bien, la semaine prochaine, Divergence.
On va faire une petite pause musicale, et puis pendant cette petite pause musicale, on va voir à peu près si on a raté la fin ou si c'était déjà la fin, doublée par le menu, je ne sais. Toujours est-il qu'on enchaîne avec, donc, non pas le lac des cygnes, mais une contrepétrie ou un calembour assez simple, le lac des singes.
Le lac des singes, un lyonnais, qui est un mélange de sonorités célestes au travers de compositions IDM ou Electronica. Antoine M. prend aussi des photos pour le collectif Culte auquel il appartient et fait aussi des photos à titre indépendant. On le retrouve sur dogmazic.net/le lac des cygnes. Vous retrouvez le lien sur l'article de l'émission dans vos radios respectives, divergence-fm.org et radioescapades avec un s.org. On va écouter un morceau, donc extrait de ses compositions, qui s'appelle Polka en licence Creative Commons by tout simplement 3.0. C'est en autoproduction et c'est sur Divergence Numérique. We'll be right back.
Super spatial comme morceau, hein.
N'est-ce pas, oui. Polka en licence Creative Commons by 3.0. En autoproduction par le Lac des Singes, notre Lyonnais de cette semaine.
Et après un Lyonnais, passons-nous à un Toulousain.
Oui, avec Thomas
Petazzoni,
qui est en fait ingénieur Linux embarqué chez Free Electron. Il est également un des principaux développeurs de BuildRoot, un outil de construction de systèmes Linux embarqué et utilisateur développeur sous système Linux depuis plus de 10 ans.
Et donc il était venu à Latte cet après-midi pour un séminaire sur le sujet et c'est pas forcément de ça dont il nous parle exclusivement, mais en exclusivité sur Divergence, il est venu nous livrer quelques mots que l'on va écouter séant.
Et dans cette 101e Divergence numérique, c'est Thomas Petazzoni qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors Thomas, on t'avait, je pense, déjà interviewé dans une Divergence numérique ou au Rencontre mondiale, que sais-je. Tu viens ici à Montpellier aujourd'hui car tu as participé cet après-midi à une espèce de réunion, d'atelier. Qu'est-ce exactement ?
En fait, c'est un séminaire d'introduction à Linux embarqué, donc qui s'est déroulé cet après-midi. Bon, sur simplement une après-midi, on a difficilement le temps de faire un atelier où les gens pratiquent par eux-mêmes. Donc on a intitulé ça plutôt séminaire. Donc j'ai fait un ensemble de présentations générales sur Linux embarqué et puis quelques petites démonstrations pour quand même avoir un aspect pratique sans toutefois prendre le temps de donner aux gens le moyen de pratiquer, puisqu'en un après-midi, c'est un petit peu difficile.
Alors le mot est lâché, Linux embarqué, on le rappelle pour les néophytes qui nous écoutent et qui sont sans doute nombreux, gageons-le, justement quand on met du logiciel dans du matériel, on va dire dédié en quelque sorte à des applications. Donc quand vous allez retirer de l'argent, il y a de l'embarqué dans le distributeur d'argent, si je comprends bien. Quand on utilise son téléphone, en quelque sorte, c'est aussi de l'embarquer ou des choses qui sont plus discrètes et plus invisibles.
Il y en a vraiment partout, en fait, de l'embarquer. Donc effectivement, des choses que beaucoup de gens voient et comprennent facilement, un lecteur de DVD, une télévision, un téléphone, tous ces appareils de la vie courante contiennent évidemment de l'électronique, mais aussi de l'informatique et donc des logiciels. Et les logiciels libres peuvent fonctionner sur ce genre de plateforme. Mais il y a aussi tout un tas d'utilisations de l'embarquer dans des applications plus industriels, terminaux de paiement par carte bleue, des machines viticoles, des machines de déneigement, des systèmes de contrôle des réseaux électriques, des éoliennes, donc vraiment dans tout type d'appareils qui peuvent être finalement énormes. On a souvent tendance à dire l'embarqué c'est pour dans les choses petites, mais quand on met du logiciel dans une éolienne, on est loin d'être dans le système qu'on met dans la poche.
Voilà.
Donc on a vraiment de l'embarquer sur un très très grand nombre de systèmes. Dès lors qu'il faut contrôler quelque chose, qu'est-ce qui se passe, réagir à des actions, à ce qui se passe dans l'environnement et mener des actions qui correspondent, on avait tendance auparavant à faire des logiciels très 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 simples, donc souvent sans système d'exploitation, et maintenant on a la possibilité, avec l'augmentation de la puissance des composants électroniques, de mettre un système d'exploitation et donc d'enrichir en fonctionnalité. Donc par exemple, dans une télévision, on le voit très bien, il y a 20 ans, une télévision, on pouvait juste changer les chaînes 1, 2, 3, 4, 5, 6, et maintenant une télévision, elle peut être connectée au réseau, elle peut programmer des enregistrements, elle peut surfer sur internet, elle peut faire tout un tas de choses. Donc cette augmentation en nombre de fonctionnalités nécessite d'avoir un système d'exploitation, et Linux en tant que système d'exploitation libre joue un rôle très important dans cette popularisation des systèmes d'exploitation dans le monde de l'embarqué.
Alors le fait justement d'utiliser du logiciel libre, je pense que l'exemple de la télé c'est intéressant parce que tout le monde en a une, sauf ceux qui n'en ont pas, mais ils sont quand même ultra minoritaires. Qui n'a pas un jour pesté contre l'interface de la télécommande de sa télé en disant ah que c'est ballot, chaque fois qu'il faut aller dans telle page il faut recliquer à cet endroit, mais qui sont bête, c'est pas possible. Alors, on imagine bien qu'il y a ce côté-là où le fait d'utiliser du libre, ça ouvre la possibilité de le modifier à plus de personnes. Mais au-delà de ça, c'est aussi en ces temps de filtrage de l'Internet, de menaces sur la neutralité du net, d'Adopi et autres crétineries, néanmoins votées, etc. Et même si peut-être qu'un jour les décrets d'application auront quelque efficacité, mais ça reste discuté. Justement, dans le contexte actuel, finalement, mettre du logiciel libre dans des appareils dédiés, etc., c'est aussi plus de transversalité, plus de transparence aussi.
Alors, d'une certaine façon, oui, mais j'aurais tendance à être plus modéré, puisque ben, heureusement pour les industriels, et puis peut-être malheureusement pour ceux qui essayent de porter les libertés numériques, les licences de logiciels libres n'obligent pas à ce que l'ensemble du système soit sous licence libre pour pouvoir utiliser certains composants libres. Donc, par exemple, dans tous les systèmes que je vais citer, le noyau Linux va être utilisé, donc vraiment ce qui constitue le cœur du système. De nombreuses bibliothèques pour faire des interfaces graphiques, faire du son, faire différentes choses vont être utilisées et puisées donc dans la communauté du logiciel libre, mais après les fabricants vont pouvoir rajouter des applications au-dessus qui ne sont pas nécessairement sous licence libre. Donc malheureusement, c'est pas parce qu'il y a du Linux ou des logiciels libres dans un appareil que l'interface, on va pouvoir la modifier, l'améliorer, etc. Il faut que là, le constructeur du matériel aille plus loin et décide d'avoir une démarche volontariste d'ouverture en se disant, ben, si j'ouvre, ben, je vais avoir des contributeurs, mon interface va s'améliorer et mon produit va être plus attrayant. Mais ce n'est pas stricto sensu nécessaire par rapport aux licences de logiciels libres qu'on a aujourd'hui en tout cas. Et dans quelque sorte, c'est quand même finalement un équilibre assez intéressant, puisque s'il n'y avait pas cet équilibre-là, les industriels auraient quand même beaucoup de mal à mettre en œuvre des logiciels libres, puisque ce serait trop contraignant à leur avis.
Oui, d'autant que la tendance est parfois plutôt même à utiliser des briques libres dans un appareil sans forcément le dire. Il y a eu des exemples récents.
Tout à fait. Effectivement, les licences de logiciels libres ont différentes caractéristiques et différentes contreparties qui sont demandées. Et l'une d'entre elles, c'est effectivement pour certaines licences de montrer le code source des briques de logiciels libres qu'on a utilisés. Et il y a effectivement certains fabricants qui, par le passé ou qui, pour certains encore aujourd'hui, ne respectent pas ces clauses de licence. Donc, pour certains d'entre eux, ils sont attaqués par les auteurs des logiciels libres en question. Et en général, et même pour les cas que je connais, les tribunaux ont toujours donné raison aux auteurs de logiciels libres. Donc on est quand même dans un mouvement où les licences de logiciels libres sont de plus en plus reconnues. Il y a une prise de conscience de la part des industriels de l'embarquer, de la nécessité de respecter ces licences. Dans le cadre de mon travail, je donne beaucoup de formations autour de Linux embarqué et je constate parmi tous les participants des formations auxquelles j'assiste qu'il y a une véritable prise de conscience, en tout cas au niveau des ingénieurs, des techniciens qui manipulent ces logiciels libres. Ils sont au courant de ces problématiques de licence-là. Ils ont souvent beaucoup de questions assez précises, assez pointues. Donc il y a une vraie prise de conscience, en tout cas au niveau des ingénieurs. Après, au niveau du management et des services juridiques, je ne sais pas.
Alors tu pratiques ton expertise tu pratiques depuis une douzaine d'années à travers une société qui s'appelle freeelectron.com qui se destine, on va dire, à tous les industriels que ça peut intéresser au niveau mondial, puisque encore une fois sur le marché de l'informatique ou des systèmes, etc., le marché le site il est sur internet et ça peut intéresser tout le monde. Une société que vous avez créé quand ? Alors, j'imagine que tu n'es pas tout seul.
Alors non, puis je ne suis pas du tout dans les fondateurs de la société. En fait, la société a été fondée en 2004-2005 par mon collègue Michael Obdenacker. Et moi, je l'ai rejoint en 2008, donc un peu plus tardivement. Et donc, cette société, c'est une société de services en logiciel libre, comme il en existe pas mal. Mais nous, notre spécificité, c'est d'être spécialisé dans le domaine de Linux embarqué. Donc, on fait vraiment que ça. Et donc, on a un peu deux volets dans notre activité. Un volet formation qui a été le point de départ de la société. Et on a sur ce plan-là, donc on fait de la formation Linux embarqué et développement noyau Linux. Donc, on est vraiment dans des domaines très spécialisés. Mais on a une caractéristique qui nous distingue de pas mal d'autres sociétés de formation, c'est que tous nos supports de formation sont sous licence libre. Donc, sous licence Creative Commons by SA. Donc, n'importe qui peut reprendre ces supports pour faire d'autres formations, pour animer des conférences, pour faire tout ce qu'on a. Et tous nos supports sont sous cette licence-là. Donc, n'importe qui peut, avant d'acheter notre formation, récupérer l'ensemble des supports à la fois de cours, de travaux pratiques, regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'était intéressant, et décider si oui ou non il faut acheter notre formation. Donc là-dessus, on est très transparent et on est assez différent de la plupart des sociétés de formation qui, en général, conservent ça comme un trésor caché. Nous, on considère non, cette documentation, elle doit être accessible à tous. Et ce qu'on apporte comme valeur ajoutée, c'est le formateur qui donne des informations supplémentaires, qui assiste les participants. Donc, on a un peu une spécificité là-dessus. Et puis, sinon, on a une activité développement. Donc, des clients viennent nous voir et nous disent, j'ai besoin d'un noyau Linux plus adapté pour cette plateforme matérielle ou celle-là, ou j'ai besoin de conseils pour construire mon système Linux embarqué, ou d'améliorer tel ou tel aspect, ou d'améliorer le temps de démarrage ou la gestion d'énergie. Voilà, on travaille sur tout ce genre de thématiques pour différents clients. Et effectivement, on travaille beaucoup à l'international. J'ai eu l'occasion de voyager au Mexique, en Turquie, en Pologne, en Serbie, en Slovénie, en Hollande, en Irlande du Nord pour l'activité de Free Electron.
Alors justement, quand on utilise du logiciel libre, on a parfois affaire à des clients qui n'en utilisaient peut-être pas jusqu'à présent.
Tout à fait.
Quel est justement le, qu'est-ce qui les attire, la philosophie, le, on va dire le coût, le fait qu'il n'y ait pas de licence afférente ou quoi?
Ben, en fait, dans le domaine auquel on s'intéresse, c'est-à-dire de l'embarquer, nous on est principalement dans l'embarqué industriel en fait, donc plutôt les machines viticoles, mm-hmm. les systèmes de contrôle pour réseau électrique, on fait à Free Electron, on n'a pas du tout de clients qui font de la télévision ou du téléphone ou ce genre de choses. En fait, c'est quasiment une évidence finalement. Quand on va choisir un matériel, donc il y a dans le domaine de l'embarqué des processeurs spécialisés qui sont différents de ceux qu'on a dans les PC de bureau ou portables. Et sur ces processeurs-là, le système d'exploitation de choix qui est même mis en avant par les fabricants du matériel, c'est Linux. Mmh. Donc finalement, c'est quasiment une évidence que c'est Linux qu'il faut choisir comme système. Donc tergiverse de moins en moins. Mmh. Dans le passé, il existe toujours des systèmes d'exploitation propriétaires pour l'embarqué. Donc Windows est assez peu présent dans l'embarqué, hein. C'est plutôt des systèmes spécialisés comme VxWorks par exemple de la société WinRiver.
Donc qui est très utilisé. Avec des brevets et tout ça?
Surtout qui est payant, avec le code mm-hmm. source fermé, ou alors il faut payer encore plus cher pour avoir accès au code source pour pouvoir le modifier, etc. D'accord. Donc vraiment une logique de logiciel propriétaire. Et maintenant Linux a quand même largement pris le dessus dans un certain nombre d'applications, quand même avec certaines limites, pour tous les systèmes très critiques. On pense aux centrales nucléaires ces temps-ci, par exemple, qui sont un système très critique. Là, Linux n'est pas du tout adapté, puisqu'il est développé selon un modèle collaboratif qui ne respecte pas tous les critères de qualité qui sont nécessaires dans les systèmes extrêmement critiques comme l'avionique, le spatial ou le nucléaire, par exemple.
À moins que ce soit le CEA directement ou Areva directement qui ait des codeurs qui après blindent un petit peu le truc.
Voilà, tout à fait. Donc, y a des réflexions en cours d'ailleurs dans cette voie, mais pour l'heure, Linux n'est pas utilisé dans des systèmes extrêmement critiques. Il y a quand même des systèmes assez pointus, par exemple des systèmes de découpe au laser. Donc Linux va quand même commander un laser qui est capable de couper du métal. Donc on espère quand même que la machine ne va pas partir faire n'importe quoi. Donc c'est quand même un système relativement critique, mais qui reste modérément critique dans le sens où il n'y a pas vraiment de vie humaine en jeu et des conséquences financières relativement limitées dans le cas d'un défaut de fonctionnement. Mais donc Linux prend vraiment dans l'embarqué, c'est devenu une quasi-évidence que dans beaucoup, beaucoup d'applications, c'est Linux le meilleur choix, puisqu'il supporte déjà la plateforme matérielle qu'on utilise. Et une fois qu'on l'a mis en place, on gagne accès à toutes les briques de logiciels libres qui existent, comme je le disais, des briques de bibliothèques graphiques, des bibliothèques pour le réseau, bref, tous les logiciels libres qui existent, on peut les mettre en œuvre sur la brique sans avoir à faire du développement supplémentaire. Mmh. Donc ça, c'est le deuxième gros intérêt que les gens voient pour l'utilisation de Linux dans l'embarqué, c'est la réutilisation. Au lieu de refaire pour la 50e fois une pile réseau ou le support pour l'USB ou le support pour une bibliothèque graphique, on va réutiliser tous ces composants-là qui existent et on va plutôt se focaliser sur la valeur ajoutée de son produit, ce qui fait réellement mon produit. Je veux faire un petit périphérique qui sert à diffuser du son et des vidéos quand je me balade dans un musée, j'ai envie de me focaliser sur le contenu et sur l'application que l'utilisateur voit. Pas sur les bas-fonds du système qui servent à lire des fichiers sur une carte SD, par exemple. Mmh. Toutes ces fonctionnalités-là, Linux les offre déjà, donc il n'y a plus qu'à se focaliser sur la valeur ajoutée. Mmh.
La société connaît un fort taux de développement dans notre époque, soi-disant, de crise.
Nous, on est une toute petite structure, hein, puisqu'en 2008, quand je l'ai rejoint, on a monté de 1 à 2 personnes, et puis on est maintenant 4, bientôt 5 dans une semaine. Donc on est encore une petite structure, donc effectivement la crise ne nous a pas impacté de manière significative, d'autant plus qu'on est quand même sur un marché relativement porteur. Il y a beaucoup de nouveaux projets qui mettent en œuvre du Linux embarqué et finalement la crise ne les a pas arrêtés.
Mmh. Pour terminer, est-ce qu'il y a des SS2I ou des gens qui font un peu le même métier mais pas en utilisant du logiciel libre qui estiment que vous leur faites une concurrence un peu déloyale, comme c'est un argument qu'on a pu entendre utilisé par certains?
Non, on n'a pas trop d'informations sur les concurrents finalement, et comme dans l'embarqué Linux est déjà, omniprésent, on a plutôt des concurrents qui font la même chose, qui utilisent aussi des logiciels libres, donc on n'est pas dans une pas du tout accusé de concurrence déloyale. C'est vraiment devenu une évidence d'utiliser du logiciel libre dans un grand nombre d'applications embarquées. Donc nos concurrents, ils font plutôt à peu près la même chose que nous. Bon, après, chacun a ses spécificités, ses domaines d'expertise, etc. Mais on est plutôt sur le même créneau. Et non, on est trop insignifiant, puisqu'on est une toute petite structure, pour être vu comme des concurrents directs de Wind River, par exemple, mais qui maintenant, en plus de VxWorks, fait aussi du Linux embarqué. Donc finalement, même les gros fabricants de systèmes d'exploitation propriétaires pour l'embarqué se sont mis au libre, puisqu'ils ont bien vu que leurs clients étaient demandeurs et que ça se justifiait pour un grand nombre d'applications.
Le fait d'être une société française, est-ce que ça joue dans les interactions avec vos clients ?
Non, je dirais que ça n'a pas d'impact particulier. Voilà, on a un site web, il est en anglais et en français, et la page d'accueil est en anglais, donc nos clients découvrent peut-être par la suite qu'on est français. Bon, en plus, mon patron, donc Michael Obdenacker, n'a pas forcément un nom qui laisse supposer l'origine française de la société.
Ni toi d'ailleurs.
Ni moi d'ailleurs. Donc non, les clients s'en fichent totalement, en tout cas pour ceux qu'on a, se fichent totalement de la provenance de la société. Donc on a travaillé vraiment pour tout un tas de pays dans le monde et évidemment aussi pour des clients français.
Thomas Petazzoni, merci. On rappelle que c'est sur free-electron.com qu'on peut bien en savoir plus sur votre activité. Et puis merci d'avoir fait un petit crochet lors de cette journée de séminaire pour passer dans nos studios de Divergence.
Avec plaisir, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, c'était pour être très honnête, c'était enregistré ce matin en fin de matinée.
Et oui, vous êtes toujours sur Divergence Numérique, 93.9, Divergence FM, 104.1, 103.3 pour Radio Escapade, et puis sur le net, divergence-fm.org, radioescapade.org. Petit coucou toujours à nos amis belges qui nous écoutent, et puis à nos amis québécois de la Voix du Libre également, qui reprennent cette émission chez eux sur les ondes de CKIA.
À présent, on refait un petit tour de canotage sur le lac.
Oui, avec un singe, le lac des singes, un artiste lyonnais, donc un deuxième morceau de sa composition « So Funky, No, I'm Kidding », qui met en avant DJ's Cries en licence Creative Commons by, et puis c'est en autoproduction. We'll be right back.
j'accélère et je ralentis et j'accélère et je ralentis et j'accélère. Je m'amuse bien avec le pitch. C'est le lac des singes.
Lac des singes, c'était So Funky, No I'm Kidding avec Jesus Cry en licence Creative Commons by 3.0 en autoproduction.
Poil au menton.
Oui, toujours. Une petite question, est-ce que les distributeurs de canettes utilisent du Linux embarqué, nous dit Robert F. Sur le chat. C'est pas sûr, mais peut-être. Les distributeurs de billets, en tout cas, c'est pas du Linux embarqué, parce que quand ça plante, on voit un bel écran bleu Windows. C'est toujours amusant. Il y a plein de choses comme ça, donc il y en a partout. Du Linux aussi, par exemple, peut-être dans votre platine de lecteur DVD, à tous les coups.
Voilà, pour décoder tous les codecs, enfin pour avoir tous les codecs, on va dire.
Et oui.
À présent, nous accueillons Pascal Arnoux, qui
et
est
oui.
avec nous, qui et est oui. là, qui attend son tour.
Et voilà, il joue avec son
l'heure.
Android, alors forcément.
Et oui, voilà, nous avons, c'est une première mondiale, mesdames et messieurs, nous avons un Android dans les studios de Divergence
deux,
FM.
Deux, j'en ai un aussi.
Ah oui, ben nous avons deux Android, j'ai nommé Pascal Arnoux et Pascal Relier.
Bonjour messieurs, comment allez-vous?
Très bien monsieur.
Plus sérieusement, Pascal Arnoux, président de Montpellier Libre, pour aborder l'actualité brûlante de ces jours-ci. Alors, on va lui ouvrir son micro, ce sera bien mieux, parce que si on ne t'ouvre pas le micro, Pascal, tu ne pourras
pas... On m'entend ?
Oui, oui, on t'entend très bien à présent.
Donc, c'est samedi 19 à Lunel pour une install party de 10h à 17h. Donc, c'est dans cette magnifique médiathèque de Lunel. Et,
toute nouvelle ?
Oui, voilà, elle a été inaugurée, l'année dernière. On y est allé.
Fin 2010, oui.
Oui, voilà, on a été invité. Elle a été inaugurée en deux fois, en fait, hein, pour les élus et puis pour le public.
Ah, subtil.
Donc,
et donc
nous allons faire une install party, installation de Linux sur des postes. Alors, vous pouvez venir avec un ordinateur. De préférence portable, c'est plus léger. Nous vous montrons comment installer différentes distributions Linux. Bon, par exemple, Ubuntu, Mandriva et puis bien d'autres. En local, nous aurons accès à une dizaine de postes. Donc, si vous n'avez pas d'ordinateur à prendre avec vous, vous pouvez assister à des installations, en tout cas à des lives CD. C'est-à-dire, on va lancer une distribution Linux sans l'installer sur le disque dur. Donc ça permet déjà de voir un peu comment ça marche, les logiciels qui sont déjà disponibles. Et dans cette install party, c'est de 10h à 17h, dans cette install party, nous faisons quelques conférences comme nous avons l'habitude de le faire. Donc Jean-Thierry de la société, enfin si on peut appeler ça une société OLPC, va nous présenter ces petits ordinateurs qui sont, enfin je ne sais plus le terme.
OLPC, c'est One Laptop Per Child, une initiative qui remonte à quelques années où il s'agissait effectivement de fabriquer des petits ordinateurs portables peu gourmands en énergie, très autonomes justement en énergie.
Et qui résistent à des conditions tempête du désert par exemple.
Voilà, ouais, genre voilà, avec clavier étanche, etc. Et avec plein d'infrabasses. Non, je rigole, si vous entendez des infrabasses, c'est que Pascal Arnoux, je ne sais pas pourquoi, tient son micro. Lâche ce micro tout de suite, Pascal.
Ah,
c'est
parce loin,
que sinon il descend. Et nous réglerons ça dans un petit instant. Mais du coup, on entendait la vibration de son index. Vous avez peut-être comme moi entendu, si vous avez de bonnes enceintes.
Ah, oui,
mais pour
que...
revenir justement à toutes ces install parties que Montpellier Libre organise quand même depuis quelques temps déjà, est-ce qu'il y a une évolution depuis le démarrage de l'association Montpellier Libre et puis on va dire peut-être une certaine migration des gens vers vos activités? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'engouement? On voit que ne serait-ce que au niveau des collectivités, des municipalités, vous êtes sollicité.
Alors c'est ça, oui. Maintenant qu'on est rentré un peu dans le cercle des médiathèques, c'est vrai qu'on est sollicité. Là, on est encore sollicité à Téhéran et prochainement, c'est décidé à 7, donc à la médiathèque André Malraux. Là, on va faire une, une séance de en fait un atelier en trois séances de Warmux, donc ça va nous permettre d'aborder des logiciels libres. Et sinon, concernant les install parties, c'est vrai qu'on a été sollicité hier ou avant-hier par Téhéran. On y est allé déjà l'année dernière, cette install party avait très bien marché. Et donc, ce sera certainement le dernier samedi de mai ou le premier samedi de juin. Mmh. Donc, on est sollicité aussi par la ville de Nîmes et le Gard. C'est pour ça qu'on essaie de booster un peu le GUL de Nîmes, la Linuxerie, afin qu'ils puissent faire des choses dans leur département.
De façon autonome.
Oui, voilà, c'est ça.
Mmh. Et puis, ils sont plus proches de Nîmes que nous, donc c'est un peu
ouais, et puis, on n'a pas vocation à aller partout non plus, donc à un moment donné, on est un peu limité. Donc oui, bien sûr, on peut se déplacer jusqu'à Nîmes, il n'y a pas de souci, on y va assez régulièrement. Mais bon, il y a des locaux, autant qu'ils le fassent eux-mêmes, quoi.
Les gens qui viennent la première fois à une install party, j'imagine qu'ils reviennent après.
Oui.
Alors donc ce qui veut dire que petit à petit, vous avez un nombre de plus en plus important finalement de gens qui viennent, entre les nouveaux et puis ceux qui reviennent parce qu'ils ont franchi une autre étape, ils veulent un autre coup de pouce pour aller plus loin.
Oui, voilà. On les récupère dans les ateliers à Kawanga, à Chopin ou à Mercury. Ou alors à Castelnau, à GNU Linux ou à Téhéran, il y en a qui vont à Téhéran. Donc nous les récupérons avec des questions, des approfondissements dans la manipulation de l'OS ou l'installation de logiciels supplémentaires.
Et au niveau du public, c'est de 7 à 77 ans, c'est plus ouais. Un public senior non. Des étudiants, des
jeunes. Ah non, c'est complètement varié. C'est complètement varié. Vous avez des étudiants, des jeunes qui n'ont même pas la majorité. Moi, j'ai vu un garçon là, qui avait une quinzaine ou 16 ans par là. Et puis après, vous avez des gens qui toute leur vie ont travaillé, n'ont jamais eu le temps de s'y intéresser et arriver à la retraite. Catherine Amker, là, qui est très fidèle à Kawanga ou à Chopin, qui vient souvent à nos install parties, et donc elle est à la retraite et elle a son Ubuntu là, qui marche très bien, elle en est très, très satisfaite. Il n'y a pas du tout d'âge.
Alors, question piège, quelle est la distribution la plus en vogue, la plus sollicitée par le public?
C'est pas du tout une question piège, hein, c'est tellement évident, c'est Ubuntu, bien sûr. Mais voilà. Et en général, bon, c'est vrai que quand on vend des ordinateurs avec un Linux déjà préinstallé, souvent on y retrouve Ubuntu, hein. C'est assez régulier, ou alors quelques tentatives qui ont été faites avec Zandros ou même d'autres, hein, ou des Mandriva, mais ou Sugar pour OLPC.
Bon, c'est vrai que on va dire la puissance financière de Mark Shuttleworth a joué évidemment beaucoup pesé dans la balance de la entre guillemets on va dire sur certains segments de la suprématie de cette distribution là qui elle-même est basée sur Debian, une des distributions les plus reconnues, les plus stables et les plus actives. Donc il n'y a pas du tout de hasard dans tout cela, d'autant que le franco-brésilien Mandriva est toujours un petit peu entre deux eaux. Peut-être que ça sera l'occasion justement d'une nouvelle émission pour voir un petit peu ce qui s'est passé depuis Mandrake, le mariage avec Connectiva, la naissance de Mandriva et puis les échecs, les rachats, etc. C'est un petit peu tourmenté, on va dire, de ce côté-là.
Ouais, c'est pas évident. Ouais. J'ai essayé de contacter Vanessa, là, elle est en congé en ce moment, donc j'essaye de la titiller, j'ai essayé de l'interviewer.
Oh, le coquin.
J'ai essayé de...
Elle devrait venir normalement.
Elle a dit qu'elle était intéressée, elle aimait beaucoup Montpellier, donc il n'y a aucune raison qu'elle ne vienne pas. Et Montpellier Libre s'est porté partenaire de cette distribution, donc bon, c'est vrai que dans cette association... on utilise autant Ubuntu, Mandriva ou Debian, peu importe quoi. Mais c'est vrai que Mandriva a besoin qu'on s'occupe un peu de cette distribution. Donc c'est pour ça qu'on tend la main à ces gens-là quoi. Mmh.
Peut-être qu'on rappelle l'adresse internet de Montpellier Libre, le prochain rendez-vous, un petit rappel pour ceux qui viennent de prendre l'écoute.
Le prochain rendez-vous, c'est demain à Mélina Mercouri.
Sauf si vous écoutez la rediffusion, auquel cas ce sera
dimanche.
La semaine prochaine.
C'est une fois par mois à Mercouri.
Donc, c'est tous les troisième
vendredi de chaque mois de 14h à 19h. Ouais,
et oui, en multidiffusion, comment veux-tu qu'on arrive à suivre?
Et sinon, donc la Stall Party, c'est samedi qui vient, samedi 19, la veille du printemps, de 10h à 17h.
Et puis évidemment, sur Internet, on retrouve toutes ces activités sur le site de l'association.
Donc c'est montpel-libre.fr. Et j'ai oublié aussi, il y aura une initiation Mailman.
Ah oui, voilà. Pour... Oui.
Mailman, c'est notre logiciel de liste de diffusion.
Tout à fait. Pour bien apprendre comment se servir d'un logiciel ou disons comment poster dans une mailing list sans se tromper de destinataire. Voilà.
Ou comment apprendre à lire l'adresse qui s'affiche quand on fait répondre.
Absolument. Quand on fait répondre, regardez bien à qui vous répondez parce que des fois, ça peut vous trahir.
Et voilà, on va. Il nous reste assez peu de temps, mais on va quand même.
On rappelle que quand même, c'est à la médiathèque de Lunel, 520 avenue des Abris Vados, 34400 Lunel, etc. Et donc, Divergence est aussi partenaire sur cet événement.
Eh bien, c'est fantastique.
Mais oui. Et nous y serons. J'y serai sans doute avec un micro pour prendre la température du public.
Et c'est une bonne idée.
Et pas un thermomètre.
Oui, ça se met pas tout à fait devant le même orifice, mais nous allons rester corrects dans cette divergence numérique et écouter quelques instants du dernier titre du Lac des Singes. En l'occurrence, sera la console du Ragondin, la camisole du Ragondin.
La camisole du Ragondin.
Avec un featuring de Un Grognard, un titre sous licence Creative Commons by, contentez-vous de le citer.
Voilà, tout simplement.
3.0 qu'on retrouve sur dogmasic.net. Et c'est un très très long morceau sur la fin duquel nous parcourrons brièvement l'agenda du libre.
Sans oublier que Firefox 4 arrive pour le printemps quand même. C'est quand même une grande nouvelle, nouveau navigateur. Oh, je crois que tu peux lancer la musique tranquillement. On peut, comme c'est du bail, on peut dériver le produit.
Carrément, purée de bois qui pète, Firefox 4, ça va envoyer le bois.
Donc, nouveau navigateur de Mozilla. Ah, avec de la musique en fond, c'est terrible. Utilisé par 29,3% des internautes quand même français, contre 49% pour Internet Explorer, selon CCM Benchmark, dont la version 9 sort donc aujourd'hui. Firefox est basé sur un concept communautaire unique. Tristan Nitto, président de Mozilla Europe, nous explique le pourquoi. Alors, comment est né Firefox ? C'est une histoire industrielle. Netscape, pionnier des navigateurs, était concurrencé par Microsoft. L'intégration d'Internet Explorer à Windows a, je cite Microsoft à l'époque, ça c'est Tristan Nitto qui le dit, couper l'oxygène de Netscape, solution pour Netscape, ouvrir son code source. Ainsi est née la fondation à but non lucratif Mozilla, dont dépend Firefox. La version 1.0 est sortie en novembre 2004. C'est le seul produit réalisé par une communauté mondiale de bénévoles.
Alors comment elle fonctionne ? Elle fonctionne avec 350 permanents, mais plus de 1000 personnes écrivent les codes sources et des dizaines de milliers testent chaque nuit les nightly builds des morceaux de Firefox réalisés dans la journée. En France, cela doit concerner 50 personnes qui font du support technique, de la traduction et autres. Alors que va apporter Firefox 4 ?
Firefox 4 est jusqu'à 6 fois plus rapide que ses précédentes versions. La barre de menu disparaît, les onglets applicatifs restent disponibles à tout moment. Autre nouveauté, un mode panorama permet de glisser-déposer des groupes d'onglets et de ne se focaliser que sur certaines tâches. Important, la compatibilité de Firefox 4 avec les mobiles Android qui se synchroniseront sur le cloud, nuage de données stockées sur Internet. Mots de passe, historique de navigation suivent l'utilisateur.
Alors, comment vit Mozilla ? Eh bien, elle a des partenariats avec des moteurs de recherche auxquels elle envoie de l'audience. Il monétise les visites et rétrocède une partie, soit 100 millions de dollars par an environ, non d'une pipe.
Eh oui.
On alimente un fonds de sécurité pour ne pas nous retrouver aux abois au cas où, dit Tristan Ito. Mais 100 millions de dollars, c'est une approche un peu frugale. Alors,
dans
ça,
le monde,
ça me...
dans le bon.
Oui, d'accord, mais nous, à Divergence, 100 millions de dollars, quand on qualifie ça de frugal, moi, personnellement, et pour rester poli, ça me troue le cul.
Et voilà, donc, vous pouvez aller sur mozilla.org.
Et voilà, et d'ici quelques temps, est installé l'excellent Firefox 4, qui ne manquera pas de vous séduire, comme il a séduit des millions d'internautes avant vous.
C'était un spot gratuit de réclame pour Firefox.
Toujours en musique de fond, la camisole du Ragondin par le lac des singes, un lyonnais.
Et puis avant de se quitter tout à fait, eh bien, on se rend compte que ce 19 mars 2011, eh bien, l'agenda du libre
est
saisi d'une frénésie, puisque dans l'ordre alphabétique de anglais jusqu'à Villeurbanne, eh bien, il y a pas moins d'une bonne vingtaine de manifestations. Alors pourquoi cette date ?
T'as oublié Vire après Villeurbanne. Il y en a encore une ?
Ah oui, il y a même Vire, où il y aura Libre en fait.
Et
Toulouse,
parce que voilà,
Toulon, Toul, est... Saint-Étienne, Saint-Avé, Saint-Blain, Prémery, Passé, j'en passe et des meilleurs, Derval, Dijon, Lambeil, toute la France s'excite sur le Libre ce 19, il doit se passer un truc.
Parce qu'on est dans la semaine de Libre en fait, et donc toutes les communautés célèbrent le Libre à leur manière, que ce soit par des ateliers, des install-parties, des découvertes... Des découvertes sur KDE 4.6 par exemple, ou des ateliers sur qu'est-ce que j'ai vu, du montage vidéo, de la cartographie également, voilà plein de choses.
Tout plein de choses, et puis c'est vrai que Libre en fait, ouais, c'est j'avais complètement zappé, mais c'est vrai que c'est une semaine d'activité dont qui ne bénéficie pas d'une campagne de communication d'envergure, alors qu'elle pourrait, hein, y a assez de sous au ministère de je ne sais trop quoi, pour je ne sais pas, communiquer.
Alors si vous êtes à Québec, à la Chambre Blanche, 185 rue Christophe Colomb Est à Québec, Québec la ville, formation GIMP pour débutants, voilà, donc n'hésitez pas à aller sur agendadulibre.qc.ca. Alors j'ai été faire mon petit tour aussi du côté de nos amis belges, le 18 à Braine-l'Alleud, par culbut.be, réunion Linux de mars. Voilà, un agenda un petit peu plus léger, vous l'aurez compris, mais en tout cas, agendadulibre.be.
Et voilà, cette divergence numérique se termine. Il nous reste quelques secondes pour vous dire au revoir. Alors nous vous disons au revoir et à jeudi prochain. Prenez bien soin de vous.
La semaine prochaine, tu sais, la multidiffusion, tout ça.
Oui.
Et portez-vous bien, portez-vous libre.
On est encore à l'antenne, hein ?
Ah non, oui, il y a les lumières rouges.
Ah merde.